7h27 minutes. Des policiers de Longueuil ont participé pendant 5 semaines à différents stages d'immersion pour découvrir des réalités qu'ils connaissaient moins. On pense, par exemple, des écoles spécialisées pour des enfants autistes, des refuges pour itinérants, des mosquées, des organismes d'aide aux immigrants. Vous avez peut-être vu ces reportages dans la presse. J'en parle avec Fadi Daguerre, qui est le directeur du service de police de Longueuil. Monsieur Daguerre, bonjour.
Bonjour.
D'abord, c'était quoi l'objectif au départ de dire « je prends tous ces policiers-là, là, puis je les envoie sur le terrain » rencontrer ou aller dans des milieux qu'ils fréquentent un peu moins?
Bon, premièrement, les policiers, on est toujours en réaction, toujours sur les appels 911. On n'a jamais eu l'occasion de rencontrer des personnes dans d'autres circonstances. L'idée, c'était de les faire immerger dans une communauté quelconque, dans le sens que, au niveau de la santé mentale, au niveau des communautés culturelles, au niveau de l'autisme, l'itinérance, et qu'ils puissent voir l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce qui se passe dans ces gens, dans la vie de ces gens-là au quotidien? Saisissent les codes, les manières de vivre, et pour qu'ils puissent intervenir de manière différente lorsqu'ils vont devoir intervenir en quelques secondes, en quelques instants. Il est extrêmement difficile pour les policiers sur les rappels 911 de pouvoir saisir rapidement ce qui se passe parce que ça va tellement vite et la population se complexifie de plus en plus. L'intercompréhension des rôles de chacun, y compris le rôle du policier. Ce qui a été très intéressant dans ce stage-là, c'est que les gens du milieu des jeunes, de l'itinérance, de la santé mentale, ont beaucoup plus saisi c'est quoi le travail policier aussi.
Parce que c'est un peu ce que j'allais vous dire, parce que un policier, là, je comprends que il fait face à une réalité dure, là, puis il répond des appels. Mais c'est pas un travailleur social, un policier. Là. Il y a une job d'affaires de police, là.
Tout à fait. Il ne le sera jamais. Il ne sera jamais un travailleur social. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans les années 70, lorsqu'on répondait à nos appels de 911, c'était des appels principalement, majoritairement, tout au niveau criminel. Présentement, 70% de nos appels sont tous en relation d'aide. Je fais quoi, moi, comme directeur? Je reste dans mon bureau, je le regarde aller, prendre des risques, pas saisir qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Parce que là, c'est beaucoup plus l'aspect social sur lequel ils interviennent. Puis on n'est pas entraîné assez là-dessus. Alors on a un choix. On continue de manière traditionnelle, sans s'intéresser à savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ou alors on essaie de comprendre ce qui se passe afin de mieux intervenir de manière proactive.
Mais ce que j'essaie de voir, je donne un exemple. Oui. On voit sur un cas classique, là, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, qui est armé d'un couteau, qui est menaçant pour lui, pour les autres, qu'il y a quelqu'un qui appelle la police. En quoi est-ce que vos policiers ont vu va changer leur approche?
OK. Ça s'appelle la désescalade. Le policier, lorsqu'il va arriver sur l'événement, c'est sûr et certain, par contre, que si l'événement est extrêmement avancé, dans le sens qu'il est extrêmement violent, ben on va devoir utiliser parfois convaincre la personne, soit par le verbal, mais rapidement, ça va aller en intervention. Justement, lors de l'appel 911 dont vous venez de mentionner, il est déjà pour moi quand même tard pour essayer de comprendre ce qui se passe avec le couteau, avec le jeune. Dans l'immersion, ils vont rencontrer ce même jeune-là, avec sa famille, dans sa maison, s'assoit avec eux et essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'il vit? Si le lendemain, il répond à l'appel 911, puis il retourne dans cette même maison-là, puis ils l'ont rencontré dans d'autres circonstances, il se peut très bien qu'ils vont saisir certains codes de la famille, avec les parents, avec l'enfant, avec lui-même, et il va peut-être essayer d'avoir un contact, une communication différente avec ce jeune-là. Le problème qu'on a, c'est l'exemple que vous avez donné, il est déjà trop tard. On arrive et on réagit, toujours sur les appels. On n'a jamais le temps de pouvoir sortir de la patrouille, aller s'installer avec les gens et essayer de comprendre ce qui se passe.
Il y a un élément qui m'a fait sursauter un peu. Je comprends qu'on veut se rapprocher des communautés, mais vos policiers sont allés dans une école coranique où il y a des enfants, des petites filles qui portent le voile. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est quoi le message qu'on veut envoyer, là?
J'ai pas un message à envoyer quelconque par rapport à qui porte le voile, qui ne le porte pas.
Non, mais une fille de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui porte le voile, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ça peut pas, on peut pas trouver ça. Je peux être en train d'apprivoiser cette réalité-là, là.
Je suis pas en train de dire à mes policiers de vouloir changer leur opinion. Je suis en train de leur dire, c'est ça qui existe dans la communauté. Nous, comme policiers, là, vous, comme citoyens, quand vous venez ce matin travailler, monsieur Arcan, vous vous informez sur toutes les nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe avant de prendre les ondes? C'est exactement ce que je veux faire vivre avec mes policiers. Aller comprendre ce qui se passe dans la communauté.
Mais comprendre, ça va jusqu'où? Je donne un exemple.
Oui.
Un homme qui dit « Je ne veux pas qu'une policière me parle, je veux que ce soit un policier mâle qui m'adresse la parole. » On fait quoi comme policier dans ce temps-là?
On va intervenir pareil. Je ne peux pas commencer à accommoder chaque personne. C'est pas vrai. Mais par contre, est-ce que je peux saisir pourquoi il me dit ça? Oui, mais ça ne veut pas dire que je vais changer mon intervention. Mais je vais la saisir au moins. Je vais saisir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il m'en parle? Je ne sais pas comment vous le...
C'est parce que j'arrive pas à c'est comprendre ce que vous cherchez. Vous dites, OK, il me dit, je comprends parce que c'est sa religion, ou en tout cas sa façon de vivre sa religion, mais ça change quoi dans mon travail de policier de savoir ça?
C'est parce
ça?
Que quand vous intervenez, si vous ne saisissez pas à l'avance, que ce soit au niveau de la santé mentale, ou d'un jeune itinérant, ou que ce soit quelqu'un qui est prise avec une jeune fille qui est prise dans l'exploitation sexuelle, si je ne saisis pas ce qu'elle vit, je vais penser que c'est une prostituée. Mais ça se peut très bien que c'est autre chose qu'il y a comme histoire en arrière. Je peux intervenir différemment pour faire en sorte de pouvoir aboutir à une solution gagnant-gagnant, win-win. Quand je vous parle de l'intercompréhension de chacun, pour moi, si je ne suis pas capable de saisir chacune, peut-être pas, je serai en charge, mais capable de saisir toutes les communautés. Et quand je parle des communautés, je parle des communautés au sens large. Ce que j'essaie de dire, c'est que...
Je regarde la réaction de vos policières, par exemple, qui ont de la misère de voir dans la façon dont certains vivent leur religion, le non-respect de l'égalité homme-femme. Les hommes sont en bas, les femmes sont en haut. La femme marche derrière, lui marche en avant. Moi, comme policier, là, je vois ça, là, puis je suis posé comprendre ça, puis vivre
non,
avec ça.
Attention, quand je vous dis comprendre, ça ne veut pas dire accepter. Faites très attention. Quand je dis comprendre, c'est juste comprendre. Je ne veux pas dire que tu dois l'accepter. Il n'y a personne qui est là pour dire mais vous devez accepter leur manière de vivre, ce n'est pas ça. Mais est-ce que ça existe dans la communauté dans laquelle vous desservez lorsque vous allez sur les appels de faire? Oui, ça existe. Mais regardez ce qui se passe. Observez. Saisissez ce qui se passe. C'est ça qui est important. Là, on peut focusser sur l'aspect l'exemple que vous avez donné au niveau des jeunes,
filles. École coranique.
École coranique. Mais j'ai des exemples multiples où si mon policier n'est pas capable... Je vais vous donner un exemple très simple. Et ça, c'est arrivé récemment. Un de mes policiers intervient sur un événement. Le jeune homme est à la maison. Les parents appellent. C'est un jeune autiste. Le policier veut bien faire. Il met sa main sur l'épaule du jeune. Qu'est-ce que vous pensez que s'est passé?
Non, c'est sûr. La réaction
non, vous
immédiate.
Non, mais vous n'avez pas aidé. Le policier, il s'est fait attaquer. Puis le jeune, là, pauvre jeune, lui, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là. Le policier, totalement menacé. Pour moi, les 30 policiers qui sont allés sur immersion, ce sont mes héros. Parce qu'ils ont vraiment... décider, c'était volontaire, d'essayer de voir les choses différemment et d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand ils sont sortis d'immersion, c'était unanime combien c'était nécessaire qu'on le vive. Tous étaient unanimes. Aujourd'hui que c'est médiatique, c'est sûr qu'il y a des réactions. Puis il y a parfois des bonnes réactions, puis il y a parfois des mauvaises réactions. Mais laissez-moi juste terminer là-dessus. Le fait qu'il y ait des mauvaises réactions, pour moi, ça fait juste confirmer qu'on a besoin de mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté.
Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de comprendre ce qui se passe dans différentes sphères de la société puis faire face à différentes réalités. C'est pour ça que je vous dis, ma crainte, c'est que on est en train, je vais vous résumer ça clairement, là. On est en train de faire un gros accommodement raisonnable pour tout. Puis on met de côté la job pour laquelle on est supposé intervenir, c'est-à-dire être policier.
Bon. Être policier pour vous, c'est quoi en 2020?
Être policier, c'est de gérer des appels d'urgence, c'est de faire face à des réalités d'urgence, sociales, malheureusement, psychiatriques, malheureusement, très souvent.
Okay.
Mais en même temps, je sais aussi qu'il y a des gens qui profitent, qui cherchent à je l'ai vu tellement souvent, là, c'est vrai dans le réseau de la santé, puis c'est vrai dans le réseau avec les policiers, je veux pas parler à une policière, qu'elle m'adresse pas la parole. Et je veux pas qu'un policier parle à ma femme.
Il n'aura même pas le choix de le faire.
Mais ça arrive, ça.
Oui, oui. Que la personne le fasse la demande, c'est une chose. Mais que nous, on y acquiesce, c'est autre chose. Moi, ce qui est important pour moi, c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Les appels 911 qu'on reçoit, là, le temps de réaction de mes policiers qui se mettent en danger au quotidien, ils sont pas assez outillés. Ça, c'est important, M. Arcan, de les outiller, ces policiers-là, à faire face à la santé mentale, à l'itinérance, à diverses complexités qui se passent présentement sur ces appels-là. Et le jour où on aura un malheur, j'espère que ça n'arrivera jamais, qu'une de mes policiers se fasse tuer ou qu'un jeune se fasse tirer parce qu'il y avait une non-compréhension de l'un et de l'autre, ce jour-là, on va se reparler. C'est ça qui est important pour moi. Le reste, là, de commencer à convertir du monde, ou bien de commencer à oui, je te comprends, puis je veux devenir comme toi. Mais non, on n'est même pas là-dedans. On n'est même pas là-dedans.
Non, mais on n'arrivera pas, là, je reviens sur cet exemple en disant, non, on va faire venir un policier parce que monsieur veut pas
non,
parler
non, monsieur,
de policier.
Non, non, monsieur, non. Moi, là, on est dans l'intervention, on va intervenir comme il se doit. C'est un policier, c'est une policière, n'importe lesquels vont intervenir.
OK. Là, il y a 30 policiers qui l'ont fait.
Oui.
Il y a d'autres qui vont le faire aussi.
Mais il y en avait une centaine, on avait une centaine qui étaient semi volontaires.
Donc, ça veut dire que l'expérience va se renouveler. Là.
Oui.
OK. L'autre question, puisque la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs est à Montréal, il faut que je vous en parle.
Oui.
Il y a eu des opérations à Longueuil concernant justement des réseaux de proxénètes et il y a eu quand même des interventions. C'est pas juste un problème de police, ça. C'est-à-dire que c'est plus large que ça, le phénomène de ces jeunes filles, là, principalement. Il y a des gars aussi, là, mais beaucoup de jeunes filles qui se font happer par des proxénètes.
Oui. Allez-y.
Qu'est-ce que vous proposez, vous, avec votre expérience?
Mais écoutez, là, vous avez mentionné quelque chose qui est rendu quasiment plus à date. Les jeunes filles qui se font happer par les proxénètes, c'est presque plus ça. Maintenant, c'est rendu que c'est des filles qui poignent ces jeunes filles-là pour le proxénète.
Qui recrutent.
Oui. C'est ça, des recruteuses. Alors maintenant, le proxénète est à un endroit, il y a la jeune fille à un endroit, et au milieu, il y a une recruteuse. Et c'est vraiment de plus en plus présent. Je vous dirais, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre le proxénète, travailler de manière répressive sur le proxénète, continuer. La jeune fille, j'étais venu en nom de vous rencontrer à un moment donné, on a parlé de la jeune fille. La jeune fille est souvent vue comme, elle veut faire de la prostitution, ça lui appartient. Tandis que nous, on la voit plus comme une victime. Donc, on veut travailler ensemble avec cette jeune fille-là pour trouver à la sortir du milieu. Si elle veut aller au niveau de la judiciarisation, on va l'accompagner. Mais il y a bien des jeunes filles à ce moment-là, au moment où on est avec elle, entre 16 et 19, 20 ans, à ce moment-là, ce qu'elle a besoin, c'est bien d'autre chose. Soit un appartement, soit un psychologue, soit de la nourriture. Nous, les policiers, on va toujours essayer de trouver un équilibre entre les trois.
Travailler clients, de manière.
Le fameux client, on est en train d'explorer. Parce que le fameux client, il y en a qui pensent que, on va prendre un client, il va faire 6 mois de prison. Monsieur Arcan, ça fait 28 ans que je suis policier. Je n'en ai pas vu un client faire réellement de la prison à long terme. Fait qu'on va arrêter de se raconter des histoires. Le client, il continue, puis il continue. Alors, ce qu'on veut explorer avec le gouvernement, puis avec le DPCP, c'est de voir, y a-t-il possibilité qu'on regarde ce qui se fait ailleurs, comme aux États-Unis et comme dans l'ouest du Canada, ça s'appelle John's School.
C'est quoi ça?
Le John's School, ce qui est intéressant, c'est qu'on pointe le client et on le forme et on le sensibilise sur ce qu'il vient de faire. Le John's School, c'est de faire en sorte qu'il va payer un montant. Ce montant-là va retourner à la fille de la rue pour qu'elle puisse se récupérer, sortir de la rue. Puis si cette personne-là, probablement, il ne peut pas être un récidiviste. Il ne peut pas. Et si cette personne-là... Une seule fois. Et une fois que tu l'as suivi, cette formation-là, cette sensibilisation-là, une fois que tu l'as vécu, si par la suite tu retombes, c'est terminé, tu t'en vas au niveau de la prison. Parce que ce qu'on a remarqué, ça fait combien d'années qu'on parle de ça? Ça fait des décennies.
Au minimum.
C'est le plus vieux métier qu'on dit. Mais le client, on l'arrête, il est libéré, puis par la suite, il recommence. Tandis que le taux de récidive au niveau de John School est hyper intéressant. Je dis pas qu'il faut prendre exactement ce qui se fait aux États-Unis ou dans l'Ouest du Canada. Ce que je dis, ce qui est important, c'est d'essayer de faire en sorte de voir comment on peut l'adapter au Québec, chez nous, et l'utiliser, et puis voir si les autres méthodes n'ont pas nécessairement fonctionné. Pourquoi qu'on essaie pas autrement?
Ouais. Monsieur Daguerre, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Fazi
Daguerre est le directeur du service de police de Longueuil, 7h41.